Alors, je suis vraiment heureux d'être ici ce matin. Ceux qui languissaient après les murs, j'allais dire les murs de Jérusalem, mais c'est presque la Jérusalem, hein, quand on dit « j'entre dans tes portes hein, », ceux qui sont allés à Jérusalem, on entre dans les portes et on a cette bénédiction du Seigneur. Et ici ce matin, on a la bénédiction du Seigneur parce qu'il était là avant nous. C'est lui qui a permis qu'on prépare les chaises d'une certaine façon. Avec le confinement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de règles qui ont été changées, qui ont été modifiées, mais c'est pour notre bien. Alors, je voulais remercier tous ceux qui sont ici présents, ceux qui sont derrière leur écran, pour les prières qu'ils ont adressées à Dieu me concernant. Alors vous voyez, je suis bien vivant, en bonne santé, hein, malgré les petits problèmes de métastases, bon, qui sont traités, naturellement, il y a aucun problème de cela. Je fais confiance aux médecins, parce que je sais que les médecins ont été dirigés par le Seigneur. Et les dernières choses, que mon traitement, parce que j'avais commencé une chimio, et la chimio n'a rien donné. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'étais allergique à la chimio? Je ne sais pas. Mais elle n'a pas voulu de moi. Et on a commencé à faire des rayons avec le Cyberknife. Donc c'est un couteau cybernétique. Et c'est un nouvel appareil qui est au CHU. Quand je dis nouvel appareil, il y a peut-être un an ou deux qu'il est là. Et quand j'ai demandé à la technicienne pourquoi on appelait ça le Cyberknife, qui veut dire le couteau cybernétique, elle m'a dit « ça remplace le scalpel du chirurgien ». Donc c'est pour vous dire que j'étais vraiment aux petits soins avec les rayons. Hein. Vous voyez cette grosse machine qui se balade autour de vous, et pendant 5 minutes, vous êtes coincé là dans un coussin, vous ne pouvez pas bouger, et on ne sent rien, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de séquelles, il n'y a pas de brûlure, rien du tout, sauf que quand c'est terminé, on vient vous dire « c'est fini ». Puis je reprends ma voiture et puis je pars. Donc, le Seigneur est bon. Alors, je continuerai sur les prières pendant le message. Mais il y a quelque chose qui m'a sauté à l'oreille, pas aux yeux, mais à l'oreille. Ben, je voulais te remercier de ce que tu as pris ce chant que je ne connais pas, « Power to the Name », qui est la puissance du nom. Quand vous pensez qu'on dit que toutes les religions se ressemblent, que nous avons tous le même Dieu, moi ça me fait bondir, je n'ai pas besoin de perche pour sauter, mais je crois que je saute au-dessus d'un building quand j'entends cela. Parce que Ben, encore une fois merci pour le beau passage dans le livre des Actes, où les apôtres n'ont pas hésité à dire aux sacrificateurs, aux Sanhédrin, à Caïphe, à tous ceux, toutes les grands pontes de l'époque, le Jésus que vous avez crucifié, il est ressuscité et il est monté au ciel. Quand vous pensez qu'il y a des personnes qui disent « ouais, vous savez, je vais pas commencer à mettre des noms sur certaines choses », mais que Jésus n'est jamais monté à la croix, qu'il n'a pas été crucifié, qu'il n'aurait pas su ressusciter, qu'il n'a pas été mis dans la tombe, et que malgré tout, il s'est marié, qu'il a eu des enfants, il a eu une famille, etc. Oui, ce sont des choses qu'on entend de plus en plus, hein. Et alors, on fait des petits sobriquets hein, aux chrétiens. On dit, ouais, vous savez, votre Jésus, c'est pas lui qui est mort sur la croix, c'est quelqu'un qui lui ressemblait. Et apparemment, ce serait Judas qu'on aurait crucifié sur la croix. Quelle infamie! N'oublions pas une chose, mes amis, au loin comme au près, que le Nouveau Testament était écrit avant que toutes ces hérésies de l'islam, hein, qui dit que Jésus n'est pas mort sur la croix, à quoi est-ce que ça servirait de lire l'Évangile si on ne croit pas que Jésus, premièrement, est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu incarné, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité des morts et qu'il est remonté au ciel. On croit plus que Mahomet est monté au ciel que Jésus est monté au ciel. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui doit vous révolter à l'intérieur en disant, mais pourquoi est-ce qu'on donne tant de place à certaines choses et pas à la vérité? Puisque avant que le Coran ne soit écrit, les évangiles ont été propagés pendant 6 siècles. Et pendant 6 siècles, l'Église, quelle qu'elle soit, hein, avec des révoltes intérieures, etc., l'Église a été infestée de chrétiens qui avaient vraiment cette foi en ce beau nom, le nom de Jésus. Alors, quand Ben est en train de parler, je t'écoutais, hein, Ben, mais je ne suis pas une femme, mais je sais faire 2 choses à la fois, écouter et réfléchir. Hein, des fois, je suis devant un miroir pour réfléchir, mais ici, c'était de dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Et avant d'ouvrir la parole de Dieu, je voulais juste dire 2 mots sur ce qu'est un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas quelqu'un qui a suivi l'Institut biblique. Bon, vous savez, moi, je connais des pasteurs qui sont sortis avec des bonnes mentions de l'Institut biblique. Et maintenant, ils ne vont même plus à l'église. Ils ont renié la foi. Donc, ce n'est pas un critère de qualité. Le seul critère de qualité pour un chrétien, c'est de reconnaître Jésus comme son sauveur, le sauveur de ses péchés. Si maintenant vous dites, « Oui, mais moi je n'ai pas de péché, qu'est-ce que c'est qu'un péché? Je n'ai pas tué, je ne suis pas allé à l'antin. » Mais ce n'est pas ça. Le péché, c'est la petite chose qu'on fait et qui déplaît à Dieu. Donc ce ne sont pas des grandes choses. La petite chose que nous faisons nous sépare de l'amour de Dieu. Vous savez, le premier péché, c'était le mensonge. Hein, c'était de dire, ben, tu sais, la femme que tu m'as donnée, elle a pris le fruit, elle a menti, elle me l'a donné, etc. C'était une dissimulation, je vais dire une fanfaronnade. Hein, et ça, c'était le péché, le premier péché. Vous allez dire, ils se sont reconnus comme étant nus. Bon, c'est pas mal en soi, hein. Mais le péché est entré dans le monde et tous les hommes sont pécheurs, quels qu'ils soient. Et j'en profite, j'ai un de mes collègues qui est là pour dire, Francis, tu es un pécheur et tu as besoin du Seigneur Jésus comme ton sauveur. En dehors de cela, il n'y a pas de mot chrétien. Parce que la première fois où on a utilisé le mot chrétien, c'était pour dire ces gens-là sont des petits Christs. Est-ce que nous sommes des petits Christs? Est-ce que nous avons l'amour de Dieu en nous? L'avant-dernier chant qu'on a chanté, on compare Jésus à une rose. Et vous savez ce qu'elle fait la rose quand on l'écrase? Eh bien, elle répand du parfum. Vous écrasez une rose et au lieu de vous maudire, eh bien, elle vous donne son parfum. Et le Seigneur Jésus a fait la même chose. Il est mort sur la croix et la première chose qu'il a dite, « mon Dieu, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quel amour! Quel amour! Et cet amour, il est personnel. Il n'y a pas, c'est pas quelque chose de collégial. parce que nous sommes tous des êtres individuels. Nous sommes tous particuliers devant le Seigneur. Et quand il est mort sur la croix, eh bien, il est mort pour chacun en particulier. Oh, vous savez, il ne faut pas commencer à dire « Oui, mais est-ce que c'est vraiment dans la main ou là ou, ?» ou... Mais non, ce n'est pas ça. L'important, c'est que Jésus soit mort sur la croix, qu'il a été l'agneau sacrifié. Et en même temps que Abraham, quand il a levé le couteau pour sacrifier son fils Isaac, et que l'ange de l'Éternel a retenu sa main, et que, en regardant dans les buissons, il a entendu un bélier qui était coincé. Eh bien, Jésus a dit la même chose que le bélier. Il a dit « Pourquoi me tiens-tu immobile, sans pouvoir me libérer ?» Et c'est ça que ça veut dire « Lama sabachthani ». Les paroles de Jésus sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné à mon sort? À mon sort pour toi, mon ami. J'espère que je n'ai pas été trop long pour dire ce qu'est un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté dans son cœur que le Seigneur le purifie de toute iniquité, de tout péché. Et quand on entend le mot purifier, ça veut dire que on est lavé, on est blanchi. Alors, dernière chose, moi j'ai suivi des cours pour être dessinateur industriel, bon, je ne l'ai pas pratiqué, mais j'aime bien le dessin. Et alors, la seule chose qu'on nous montrait, c'était de faire des dessins au crayon et d'avoir une bonne gomme. Pourquoi ? Parce que quand on faisait des erreurs, on prenait la gomme et on effaçait, et on pouvait rendre la page blanche. Mais vous savez ce qui reste quand vous avez gommé? Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. On va dire, mais il ne reste rien. Mais si, il reste les petits détritus du dessin, du crayon. Hein? Et c'est ça que Jésus a porté sur la croix. Quand il vous lave de vos péchés, eh bien, il prend le péché et il le garde sur la croix. Mais il n'est pas resté sur la croix, hein. Il a montré sa puissance, sa toute puissance. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité après 3 jours. Et après 40 jours, il est monté au ciel pour reprendre sa place victorieuse de roi des rois. J'ai dit que c'était la dernière chose, mais une dernière chose, c'est que si on dit que Dieu est notre Père, le Père donne la nationalité à l'enfant. Et c'est pour ça qu'on dit patrie, parce que dans le mot patrie, il y a le mot Père. Si nous sommes citoyens des cieux, si nous avons accepté Dieu comme notre Père, nous sommes ses enfants et notre cité, notre nationalité, c'est d'être enfants de Dieu, donc des chrétiens. Ne nous leurrons pas, laissons le Seigneur agir dans notre vie. Et vous aurez une paix que le monde ne peut pas donner. Une paix qui surpasse toute intelligence, dit la parole de Dieu. Alors, je voulais arriver au texte, et c'est dans Romains, au chapitre 12, chapitre 12, versets 9 à 21. Je vais changer mon vélo, je fais comme Eddy Merckx. Hein. Voilà ce qu'il est écrit dans Romains au chapitre 12, de 9 à 21. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints Exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas convaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » J'aimerais que nous baissions la tête et que nous prions. Seigneur, je voudrais te remercier pour ton amour qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre et savoir. Merci parce que tu t'es donné simplement et humblement sur la croix pour nos péchés. Seigneur, quand tu as fait cette prière sacerdotale, tu as dit, je ne te prie pas seulement pour les gens, les disciples présents, mais pour ceux qui viendront après. Merci parce que tu nous incluais déjà dans cette prière. Et je voudrais te remercier pour cela parce que tu es digne de louange. Tu es notre Seigneur. Tu es le plus beau nom qui existe sur la terre. Merci Seigneur pour ton amour qui ne change pas parce que tu es le fidèle. Amen. Que la charité soit sans hypocrisie, c'est le premier mot. La charité, c'est un autre mot pour dire l'amour. Et c'est mentionné en premier, car il est nécessaire pour l'exercice des dons et la marche du chrétien. Cet amour doit être sans hypocrisie, ça veut dire sans masque. Donc, cet amour doit être vrai. L'amour se réjouit de la vérité. N'oublions pas que c'est Dieu qui verse en nous son amour par son Saint-Esprit. Nous devons avoir une sainte horreur du mal, sous toutes ses formes. Nous devons nous exercer à bannir le mal de notre vie. Moi, j'avais une maman qui était, je ne vais pas dire profondément chrétienne, parce qu'elle avait donné son cœur au Seigneur, et quand moi j'ai accepté le Seigneur, je n'ai pas vu de différence entre elle et moi, sauf qu'elle était plus âgée que moi. Elle avait des cheveux blancs, hein, à peu près comme les miens, qui sont en train de repousser, mais elle montrait son affection pour le Seigneur et elle m'avait toujours appris, ainsi qu'à mes frères et sœurs, de ne pas sombrer dans le mensonge, d'avoir le mensonge en horreur. Et j'essaye de vivre de cette façon, sans avoir le mensonge qui me colle à la peau. D'ailleurs, Jésus a dit une chose, il a dit « La vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. » Regardons l'exhortation de ne pas nous attacher au mal, mais plutôt au bien. Il est écrit « Attachez-vous fermement ». En d'autres mots, tenons-nous fermement au bien. Nous devons être pleins d'affection, donc avec honneur les uns pour les autres. Les liens d'amour envers notre famille de la foi doivent s'exprimer avec plénitude. Quand on dit à nos frères et à nos sœurs « je t'aime », est-ce que c'est « je t'aime » comme un morceau de chocolat ou comme une crème glacée ? Ou bien c'est un amour que le Seigneur m'a donné pour partager avec toi, mon frère, ma sœur. Ça, c'est le vrai amour. C'est pas quelque chose de charnel, parce que l'amour est un sentiment qu'on apprend à drainé. On apprend à... Donc, dans le mot « amour » en italien, quand on dit « mi ami », il y a le mot « ami hein. ». On pourrait dire qu'être amoureux, c'est être un ami profond. C'est avoir une amitié profonde avec quelqu'un. Est-ce que, entre frères et sœurs, nous avons cet amour qui nous pousse à aller vers les autres? Est-ce que vous avez pensé à nos frères et nos sœurs de la communauté pendant ce confinement qui a duré trop longtemps? Tous les jours, ce n'est pas une gloire, hein, mais tous les jours, dans mon entretien avec le Seigneur, j'ai remis chacun d'entre vous entre les mains de Dieu. Vous remettre sur l'autel de la grâce, en sachant qu'il n'y a que Dieu qui peut vraiment rendre quelqu'un heureux. La joie, bon, il y en a qui vont prendre de l'alcool, il y en a qui vont aller s'amuser pour avoir de la joie, mais elle est éphémère, hein, la joie. Parce que quand on est déconnecté de ce milieu-là, eh bien, on est foncièrement malheureux. Et je crois que les gens ne pourraient pas dire que ce n'est pas vrai, parce que je vais donner mon âge, hein, mais je reste jeune, je veux rester dans les 60, j'ai 74 ans. Hein, comme ça, je reste jeune. Hein. Et j'ai été jeune, j'ai eu 15 ans, j'ai eu 20 ans, j'ai eu 30 ans, j'ai eu 40 ans, Ben. Hein. Et chaque fois, le Seigneur m'a montré que son amour était la chose la plus importante. C'était le moteur de ma vie. Et si je suis ici ce matin, c'est parce que le moteur marche toujours bien. Le moteur de l'amour, eh bien, il fonctionne. Nous sommes invités à user de prévenance réciproque. On parle de l'humilité, et l'humilité, comme dit l'apôtre Paul aux Philippiens, nous fait voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Donc, mon prochain chrétien, mon frère, ma sœur, de la même patrie que moi, eh bien, ils sont plus importants, et je dois les mettre au-dessus de moi, parce que vous imaginez, moi je mets quelqu'un au-dessus de moi, et cette personne-là, en pensant à moi, elle me met au-dessus d'elle. Ce n'est pas un concours, hein, mais on est tous sur un même pied d'égalité devant le Seigneur. Et c'est ça que l'amour nous apprend. Alors, j'ai eu une réflexion lorsque j'ai appris que d'autres membres de la communauté passaient par des problèmes de santé. Et qui n'a pas des problèmes de santé ? Ça peut être des problèmes, je veux dire, psychologiques, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être toutes sortes de problèmes. Et j'ai pensé que nous devions nous porter les uns les autres dans la prière. Pourquoi est-ce que c'est important de prier les uns pour les autres ? Parce que, je vais dire hier, hein, donc il y a quelque temps, je n'avais besoin de aucune prière pour ma santé, puisque je n'étais pas malade. Et je priais pour les autres, pour les malades de la communauté, pour les gens que je connais et qui avaient des défaillances physiques ou spirituelles. Et quand moi j'ai commencé à être mis sur la chaîne de prière, je me dis, aujourd'hui, on prie pour moi, et demain, celui qui a prié pour moi, je devrais prier pour lui. Hein? C'est un juste retournement de situation. Et c'est pour ça qu'on doit s'entretenir les uns les autres par la prière. On doit ne pas avoir peur de dire « Seigneur, bénis un tel ». Je ne sais pas ce qu'il a dans sa santé, peut-être qu'il a des besoins particuliers. Mais toi, tu le sais, parce que tu es celui qui nous voit de très loin, mais Dieu est prêt, hein, il est dans mon cœur, donc il voit ce que je vis comme difficulté. Chacun, nous avons, comme dirait le dicton populaire, chacun a sa croix à porter. Hein. Mais avec le Seigneur, c'est beaucoup plus facile à porter. Si je n'avais pas ce Seigneur-là, qu'est-ce que je ferais? Quand j'étais jeune, avant d'être chrétien, hein, le plus mauvais jour pour moi, c'était le dimanche. Parce que je devais accompagner mes parents à l'église. Je disais, mais pendant la semaine, je vais à l'école, je vais au cours du soir, je rentre, je mange, puis je vais dormir. Donc la journée, elle passe vite. Mais ce que je détestais le dimanche. Et maintenant, je me réjouis d'être le dimanche pour pouvoir, ben, malgré le confinement, hein, de pouvoir prier pour mes frères et mes sœurs. Hier soir, j'étais dans mon lit et j'étais en train de penser, j'ai dit, demain, je vais voir des frères et des sœurs. Et Seigneur, je te prie déjà pour ceux qui ont déjà prié, qui sont déjà allés au culte ce matin. Puisque du côté du Japon, c'était déjà le matin. Hein, donc, et puis je dis, et au Canada, ils sont en train de se préparer pour aller dormir. Et pendant que moi, je serai dans l'après-midi, eux, ils vont se lever pour aller au culte. Quel enchaînement des choses. Hein. L'apôtre Paul continue en disant, « Ayez du zèle et non de la paresse », au verset 11. « Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière et pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. » Nous devons avoir un zèle dans notre activité chrétienne. Soyons fervents d'esprit. La paresse ne devrait pas exister chez les enfants de Dieu, ne même pas être nommée. Le livre des Proverbes ne fait pas l'éloge des paresseux, de ceux qui sont oisifs. Hein, d'ailleurs, Salomon, il dit, Fainéant regarde la fourmi. Hein, elle ne dort ni se tracasse, elle est toujours en train de travailler. Hein, la fourmi, du matin au soir et du soir au matin, elle travaille. Les abeilles aussi. Tout est en travail, sauf l'homme fainéant. D'ailleurs, dans le mot fainéant, ça veut dire qu'il ne fait rien. Hein? Il fait néant. Hein? Donc, faisons attention. L'étymologie du mot ferveur, parce que de temps en temps, j'ai des petites bribes, des sursauts d'intelligence, je vais voir dans mon petit dictionnaire d'étymologie, et le mot ferveur est rendu par bouillonner. Quand il dit soyez fervent d'esprit, soyez bouillonnant d'esprit. Et aussi, un autre sens, avoir de l'ardeur. Et le mot ardere en italien veut dire brûler. Hein? En latin, ça veut dire brûler. Ça veut dire, c'est pas se consumer, mais avoir envie de toujours aller. On a chanté hein, que le Saint-Esprit brûle en nous. Hein? Donc, il peut brûler toutes les mauvaises choses. Hein? Et nous allons vivre dans la joie de l'espérance, celle qui ne trompe pas. Le Seigneur revient. Et les événements actuels nous le prouvent de plus en plus. Est-ce que nous l'attendons? Cette attente doit se faire dans la patience. Savez-vous que la patience n'est pas innée chez l'homme? Mais elle s'apprend au fur et à mesure de notre cheminement terrestre. C'est aussi le fruit de l'esprit. Quand l'apôtre Paul dit « le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la persévérance hein, », et la patience fait partie de ces qualificatifs, l'apôtre nous rappelle de prier avec persévérance. Nous devons aussi pouvoir pourvoir aux besoins des saints. Ici, on ne parle pas des gens qui sont morts. Hein, dans l'Église catholique, pour ne pas la citer, dès que quelqu'un a fait des bonnes actions quand il était vivant, quelques années après, on fait un procès en sainteté. Hein, et la personne devient saint. Quelquefois, je me dis, mais sainte Véronique, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah oui, elle a mis, d'après la tradition, elle a mis un voile sur le, sur la figure de Jésus pour avoir son, son portrait ensanglanté. Hein? Saint Dominique, je pense. Hein? Bon, c'est peut-être, je ne critique pas ici, hein? C'est certainement des personnes qui, pendant leur vivant, ont fait des bonnes actions. Mais ce n'est pas les bonnes actions qui nous amènent au ciel. Hein? Le ciel, dans le ciel, il n'y a que Jésus pour le moment. Jésus qui a repris sa place à la droite de Dieu et il règne en majesté et il va revenir nous prendre. D'abord, les morts ressusciteront en Christ et puis nous, les vivants, nous serons enlevés avec lui. Donc, il n'y a pas de personnes qui nous ont dépassés ou qui sont en avance dans le ciel. Donc, maintenant, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais Bible en main, il faut qu'on prouve le contraire. Nous, les vivants, mis à part pour l'œuvre de Dieu, nous sommes des saints. Parce que le mot saint veut dire mis à part pour l'œuvre de Dieu. Exerçons l'hospitalité. Regardons notre prochain comme quelqu'un qui a besoin d'être hospitalisé chez nous. Hein, donc, quand on va à l'hôpital, on est comme dans un hôtel, on est pris en charge. Hein. Bon, ce n'est pas tout à fait comme dans un hôtel, hein, un hôpital. Hein, parce que là, c'est l'hôtel de la souffrance. Hein. Mais le Seigneur nous enverra vers les personnes que lui souhaite nous voir assister. Ne cherchons pas, et ça, c'est quelque chose. J'aime mieux que le Seigneur me donne un coup de pied au derrière pour aller vers les personnes qu'il veut que j'aide, plutôt que moi essayer de découvrir des personnes à aider. Parce que nous ne sommes pas équipés pour. Mais si le Seigneur nous envoie, il va nous équiper et nous donner tout ce dont nous avons besoin pour aller vers notre prochain, notre frère qui est dans le besoin. Laissons le Seigneur décider, et cela demande de l'obéissance et de la disponibilité au service de Dieu. Quand je travaillais, j'avais toujours en main un petit bloc pour écrire et un bic. Mais tant que je n'avais pas besoin d'écrire, ben mon bic restait là et le bloc restait vide. Et nous devons être comme cela dans les mains de Dieu. Nous devons être disponibles dans les mains de Dieu pour que lui puisse faire de nous ce que lui, il lui semble bon que nous fassions. L'apôtre Paul se penche maintenant sur notre relation avec les autres. Au verset 14, il dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas ». Bénir, c'est une belle expression que nous devrions mettre en exergue dans notre vie. L'origine du mot bénir, ça veut dire dire du bien. Bene dire, donc dire du bien. Et le Jésus nous a rappelé un passage de la Torah. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'est pas écrit, tu dois faire des distinctions entre le frère, la sœur, et tu dois aimer plus l'un que l'autre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous nous aimons nous-mêmes, et si nous savons nous donner de bonnes choses, nous allons aller vers l'autre avec des bonnes choses à présenter. Au lieu de dire du mal de ceux qui nous veulent du mal, nous devons les bénir. Et la persécution, elle a plusieurs formes. Il y a des formes actives, donc les formes corporelles avec des blessures. Mais il y a aussi des formes passives avec la langue. Il y a un proverbe italien qui dit « La langue n'a pas d'os, mais elle brise les os des autres. » Soyons attentifs à ne pas utiliser la langue qui est un des plus petits instruments de notre corps, mais qui peut faire beaucoup de mal. Bénissez, ne maudissez pas. Alors nous avons un exemple dans l'épître de Jude, quand l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, il n'osa même pas porter un jugement injurieux, mais il lui dit « Que Dieu te réprime !» Que Dieu te réprime. Laissons à Dieu le plaisir de nous venger. Je veux dire un plaisir, ce n'est pas un plaisir, mais nous sommes ses enfants. N'oublions pas que nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Nous sommes très importants. Comme je l'ai dit en commençant, le sacrifice de Jésus est la chose la plus importante qui a été faite. Parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Il a d'abord donné comme un petit enfant pour qu'il grandisse et aille jusque la mort de la croix, pour nous. Ne varions pas notre sensibilité, mais soyons constants dans nos sentiments envers ceux qui sont autour de nous et principalement envers les chrétiens. Soyons humbles. Alors, quelqu'un une fois m'a dit, mais vous parlez d'humilité, mais vous êtes des Carpates. Et je dis non. Nous ne sommes pas des Carpates parce que nous nous humilions volontairement. Nous sommes en quelque sorte des doux, pas doux dans le sens de fou, mais la douceur, c'était le caractère de Jésus, parce que Jésus était humble et doux. La fin du verset 16 dit « Ne soyez pas sages à vos propres yeux ». Et j'ai pensé à un proverbe, le proverbe 3, au chapitre 3, verset 7, qui dit « As-tu vu un homme sage à ses propres yeux ?» Et il dit « Il y a plus d'espoir pour un sot que pour lui. » Ne faisons pas de notre sagesse, de notre philosophie, hein, l'amour de la sagesse, quelque chose qui nous dépasse, mais qu'au contraire, nous puissions être simple, humble devant les autres. Les enfants bien-aimés de Dieu ne doivent pas se venger eux-mêmes, mais laisser le Seigneur prendre en main leur cause. Alors il y a pour le mot « agir hein, », au verset 19, il est écrit « Laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Alors, il y a une pub qu'on voit de temps en temps, hein, pour ne pas dire, c'est la publicité sur Viacal, hein, le produit pour enlever le calcaire. Hein. Alors, si vous écoutez bien la publicité, eh bien, il faut appliquer le produit et laisser agir. Laisser agir. Il n'y a pas besoin de prendre une éponge et commence à frotter, parce qu'on risquerait de griffer le robinet ou la surface sur laquelle on a mis le produit. Laissez agir. Et puis, quand ça a agi, on prend un chiffon et on peut essuyer. Agir, ça prend un certain temps. Au lieu de nous venger, laissons agir l'Esprit de Dieu. Laissons-le nous contrôler et garder nos nerfs tranquilles. Hein, vous savez, il y en a qui sont tellement nerveux qu'ils énervent leurs nerfs. Hein. Soyons tranquilles. Si nous laissons la colère, agir la colère, le Seigneur agira mieux que ce que vous pouviez faire. Il y a un proverbe au chapitre 30, verset 33, qui dit « La pression du lait produit de la crème ». Donc ça veut dire que les mauvaises choses qu'on pourrait, la vengeance, si on met notre main sur notre bouche, eh bien, ce qui va sortir, eh bien, ce sera de la crème au lieu de mauvaises choses. Laissons agir le Seigneur. et il va produire de la crème. Mais si notre ennemi a faim, nous devons l'aider car ce sont des charbons ardents que nous amasserons sur sa tête. Lorsque j'étais aumônier à la prison, il y avait un jeune détenu, oh, il devait avoir 23, 24 ans à l'époque, c'était la terreur des surveillants. Parce qu'il jouait toujours des tours aux surveillants. Hein, donc, il les insultait, il les faisait tourner à bourrique. Et j'ai eu l'occasion, Dieu merci, d'aller dans sa cellule et de parler du Seigneur. Il était analphabète et j'ai commencé un petit cours d'alphabétisation. Oh, ben, vous savez, il faut de la patience hein, pour commencer à apprendre A, B, C, D à quelqu'un et puis commencer à lui mettre les lettres. Ça a pris un certain temps, mais quand il a commencé à mettre les mots ensemble, qu'il a commencé à lire dans le Nouveau Testament, eh bien, je lui avais apporté une petite réglette avec l'alphabet, hein. Eh bien, il recopiait, tenez-vous bien, il recopiait les versets de la Bible avec cette petite réglette. Donc, il prenait les A, puis le V, le E, le C pour faire avec. Hein. Et tout ça, ça lui prenait du temps. Mais en même temps que ça prenait du temps, son cœur a changé. Et ça m'a été rapporté par lui et par des surveillants. Quand il appelait les surveillants, hein, avant, ben, il tapait sur la porte et il les insultait. Hein. Et ici, quand les surveillants arrivaient, qu'ils ouvraient la porte, ils disaient « Bonjour chef, ça va chef, vous avez passé une bonne journée chef ?» Les surveillants se demandaient ce qui se passait. Ils croyaient même qu'il était en train d'avoir une autre technique pour les ennuyer. Et au bout d'un certain temps, ils ont vu qu'il était changé. Il avait changé d'attitude et il était devenu quelqu'un de calme, d'aimant. Hein. Et c'était même un plaisir pour les surveillants par après hein, de venir parler avec lui. Voyez comment Dieu peut changer un cœur. Un cœur de pierre, il peut le faire changer en cœur de chair. Donc il avait trouvé comment changer le mal en bien. Et le dernier verset, donc le verset 21, dit ceci, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Soyons reconnaissants envers le Seigneur, parce qu'il n'y a que lui qui peut changer notre comportement vis-à-vis des autres, mais qui peut aussi changer le comportement des autres vis-à-vis de nous. Parce que ça se passe dans les deux sens. Alors, dans un livre que j'ai à la maison, qui m'avait été offert par un missionnaire qui m'avait suivi au début de ma conversion, on voyait un dessin où il y avait un monsieur avec des flèches, hein, c'était la colère. Et celui qui était en face, il avait la même chose. Il y avait la colère. Donc, il n'y a pas de discussion hein, entre les personnes. Hein. Et quand quelqu'un devient chrétien, eh bien, il apprend à contrôler cette colère parce qu'elle agit d'une certaine façon. Et l'autre peut continuer hein, à être irritant. Et ça m'a fait penser à quelqu'un qui approche, qui se promène et qui a un chien qui arrive et qui commence à aboyer. Si vous commencez à faire des gestes, le chien va continuer à aboyer. Mais si vous arrêtez et que vous essayez de lui parler peut-être, pour autant que ce ne soit pas un chien dangereux, hein, eh bien vous allez le calmer et il ne va pas devenir votre ami, mais il va vous laisser tranquille. Nous devons apprendre à pardonner les offenses des autres. Pardonner, c'est une chose que le Seigneur nous a enseignée. Et dans Matthieu, Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est presque un ultimatum de Dieu. Hein. Ce qu'on appelle le Notre Père, la prière que Jésus a montrée comme exemple, hein, pas pour que nous la récitions par cœur, sans même réfléchir aux mots, mais il est écrit, pardonne-nous nos offenses. Seigneur, pardonne-moi mes offenses, mais ce n'est pas fini. Comme j'ai l'habitude de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Est-ce que nous pouvons aller vers l'autre et de dire, ben écoute, je te pardonne tout le mal que tu as pu me faire. Et ça marche, parce que ceux qui me connaissent savent que je parle toujours par expérience. J'ai fait l'expérience du pardon. J'ai appris que j'avais blessé des personnes sans le savoir, puisqu'on peut blesser des personnes par inadvertance. Et quand je l'ai appris, la première chose que j'ai faite, j'ai demandé au pasteur de m'accompagner chez ces personnes et je leur ai demandé pardon. Et vous savez comment on sait quand quelqu'un vous a pardonné? C'était un chrétien, donc il n'y avait pas tellement de problème. C'est qu'après, on s'est tenu par la main et on a prié ensemble. On a remercié le Seigneur pour le pardon. Par contre, il y avait un deuxième couple, c'était des beaux-frères, hein. Et le deuxième couple n'avait pas accepté mon pardon. Mais vous savez, une chose est certaine, c'est que moi j'avais fait de la démarche. Pour moi, c'était clair. J'avais entamé le processus du pardon. Et c'est longtemps après, quand je dis longtemps, des années après, ces personnes-là sont venues me trouver et elles m'ont dit, Salvatore, on te demande pardon de ne pas avoir accepté ton pardon à ce moment-là parce qu'on n'avait pas compris ta démarche. Mais je te remercie de l'avoir fait. Parce que chez eux, il y avait quelque chose qui ne les gardait pas dans la paix. Hein. Et c'est quelque chose de merveilleux quand on peut pardonner. Parce que il faut surmonter le mal par le bien. Là où le péché abondait, Dieu veut faire abonder sa grâce. Soyons des valeureux chrétiens toujours prêts à faire le bien en toutes circonstances. Et je crois que le titre, c'était « Amour et vengeance », mais je crois que le plus grand de tout, c'est l'amour. Parce que l'amour ne périt jamais. Dans le ciel, il n'y aura qu'un lien, ce sera le lien d'amour, qui va nous unir pour toute l'éternité avec notre Seigneur et notre Dieu. Amen.